France Musique.
L'heure du journal d'Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Et bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Habillé de noir, Kalachnikov à la main, l'homme descend d'un hélicoptère protégé par des gardes du corps surarmés. Le président Alexandre Loukachenko montre ainsi au monde et à ses opposants qu'il n'a pas l'intention de baisser la garde, encore moins de lâcher le pouvoir. C'est pourtant ce que ont réclamé une nouvelle fois avec force hier des dizaines de milliers de personnes venues manifester dans les rues de Minsk, la capitale de la Biélorussie. Le bras de fer se poursuit donc sous les yeux du Kremlin qui défend depuis quelques jours maintenant l'idée d'une révision de la constitution de son petit état voisin pour espérer sortir de l'impasse. Claude Bourriaud nous appelle de Moscou.
À partir de l'instant où l'on considère qu'une réforme constitutionnelle doit s'intégrer dans un calendrier qu'il sera alors possible d'étaler à l'envi, cette stratégie ressemble surtout à un gain de temps. Mais on ne voit pas comment le Kremlin va s'y prendre pour décider, surtout Alexandre Loukachenko, à engager ne serait-ce que des pourparlers avec l'opposition, qui est en réalité aujourd'hui en grande majorité la société civile biélorusse dans son ensemble. Puisque plus on avance dans le temps, plus le président biélorusse adopte un discours guerrier qui évoque sans arrêt la confrontation avec des ennemis extérieurs, à l'origine, selon lui, des manifestations comme celle d'hier. Un discours que le Kremlin fait semblant de relayer, bien conscient surtout que l'immense majorité des Biélorusses aujourd'hui est fatiguée par ces 26 années de pouvoir autocrate d'Alexandre Loukachenko, en espérant aussi que rien de contagieux n'interviendra à Minsk dans la suite des événements bien difficiles à prédire. Les seules prévisions fiables des jours à venir ne sont guère rassurantes, même s'il n'est question que de manœuvres, de fortes concentrations militaires biélorusses sont annoncées dans 5 jours dans la région de Grodno, près de la frontière polonaise.
Il y a un virus qui circule activement, de plus en plus de cas de contamination avérés. Le gouvernement français dit ne pas vouloir brouiller les messages. Priorité est donc donnée à la crise sanitaire et aux rappels incessants des consignes de prévention. Le plan de relance de l'économie chiffré à 100 milliards d'euros qui devait être annoncé demain officiellement est ainsi reporté à la semaine prochaine. Pour autant, certaines mesures sont déjà connues, comme le recrutement de plusieurs milliers de personnes à Pôle emploi, où l'on s'attend à une grosse vague de nouveaux chômeurs à la rentrée. Maxime Debs.
Il y a 6 mois encore, les voyants tendaient au vert. Ils sont désormais rouges écarlates. Alors à Pôle emploi, c'est le branle-bas de combat. Tout le monde est en ordre de bataille, confirme un cadre. Mais faute de savoir à quelques jours de la rentrée sur combien de personnes supplémentaires elle pourra compter, la direction se dépatouille depuis plusieurs semaines déjà avec les plannings. Gymnastique de l'été, réorganisation des effectifs de manière à gérer au mieux la grosse vague qui s'apprête à déferler et dont les conseillers commencent à ressentir les premiers remous. Ministre du Travail, Elisabeth Borne a promis fin juillet de l'aide aux agents Pôle emploi. L'arbitrage doit revenir à Bercy. Idéalement, les syndicats espèrent 1500 recrutements tout de suite. La même chose en octobre-novembre, moment qui pourrait bien être le plus critique selon les prévisions de l'organisme public.
Et puis la lutte contre le Covid-19, elle passe aussi par cette mobilisation portée par une trentaine de maires franciliens qui signent un livre blanc. Ils réclament plus de pouvoir pour les communes en cas de deuxième vague. À l'origine de cette démarche, le maire socialiste d'Alfortville, Luc Carvounas. Certaines municipalités ont déjà une longueur d'avance. C'est le cas de Marcoussis dans le département de l'Essonne, qui vient de remettre en état d'alerte sa brigade citoyenne. Star reportage de Jeanne Dosset.
Une bouffée d'oxygène, c'était ça la réserve citoyenne pour Jean pendant le confinement. Car à 84 ans, sa santé fragile lui interdisait la moindre sortie.
Quand même, il nous apporte le manger à domicile. Il nous amenait ça jusqu'à dans le frigidaire. Une gentillesse, politesse, ils étaient au top niveau.
Alors si jamais le virus repartait en force...
C'est pas souhaité, hein, mais enfin, je voudrais qu'il s'occupe encore de nous comme ça. Ça me sécurise, c'est très bien.
Des courses alimentaires, des coups de fil aux personnes isolées, Antoine est prêt à remettre sa casquette de bénévole en cas de deuxième vague.
Dans tous les cas, je l'ai fait une fois, j'y ai pris goût et on sera là pour les aider et pour les soutenir moralement, on va dire.
Comme le jeune homme à Marcoussis, pas moins de 200 volontaires de 18 à 50 ans ont soutenu les plus fragiles pendant le confinement et les habitudes sont restées.
J'ai rencontré même des voisins à moi que j'avais jamais vus. Même encore maintenant, dès qu'ils ont besoin de quelque chose, je vais les aider. Je pense que c'est partout pareil.
Cette solidarité plaît aussi beaucoup à Axel, bénévole de 21 ans.
Marcoussis, c'est une petite ville, donc
on s'aide, ça permet d'avoir une bonne entente aussi, que tout le monde sache qu'on peut compter chacun sur l'autre.
Pendant le confinement, la brigade a aidé plusieurs centaines de Marcoussiciens, avec aussi de la garde d'enfants pour les habitants qui ne pouvaient pas télétravailler.
À la fin d'une chaîne de télévision publique dédiée aux Outre-mer, France O s'est éteinte à minuit, un écran noir sur le canal 19 de la TNT. Le signal sera officiellement coupé le 1er septembre. Hier, devant le ministère de la Culture, plusieurs dizaines de personnes ont dénoncé l'invisibilité à venir de ces départements et territoires français au sein de l'audiovisuel public. Des nuages de la Bretagne au Pays de Loire. Le soleil sera généreux sur de nombreuses régions. Des averses sont possibles en fin de journée sur le Mercantour et sur la montagne Corse. Les températures iront cet après-midi de 19 à 29 degrés, Jean-Baptiste Urbain.
C'était le journal d'Olivier Denré que l'on retrouve demain dès 7h.
À demain.
Bonne journée.
À réécouter sur francemusique.fr.